Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte, la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, où nous aurons une petite lecture à partir du verset 4. Proverbes, chapitre 4, verset 4. Et là, c'est les questions de l'acquisition de la sagesse. Nous lisons en effet, il est question donc d'un père qui instruit son fils, et en même temps du Père céleste qui veut nous instruire, nous. Verbe 4, verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquière la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquière l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montrerai la voie de la sagesse. Je te conduirai dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Amen. Notre texte nous parle de l'acquisition de la sagesse et de l'intelligence, mais de l'intelligence, je veux dire, dans son sens premier. Le sens premier de l'intelligence, on se souvient, ça vient du latin intelligere, qui veut dire comprendre. Donc, c'est la compréhension de la vie, la compréhension des relations, la compréhension des gens, la compréhension du sens de l'existence. Voilà. Et donc, ce texte nous explique clairement que l'acquisition de la sagesse, c'est la condition indispensable pour que nous puissions être bénis et pleinement bénis de Dieu. Et en même temps, tout ceci dépend de la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Ça dépend de notre réception du message de l'Écriture et c'est ce qui ressort aussi avec une grande clarté de notre texte. Alors la question se pose, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de recevoir la parole de Dieu? Et comment l'avez-vous reçue? Est-ce que vous l'avez réellement reçue? Il nous est question, ailleurs dans la Bible, de ceux qui la reçoivent avec douceur et respect, car elle peut sauver nos âmes. Voilà. Est-ce que nous avons eu cette bonne attitude pour la recevoir? C'est Winston Churchill, donc, dans un de ses livres qui a pour titre « Essai », il s'exprime ainsi au sujet de la vie et de l'œuvre de Moïse. Voilà ce qu'il écrit. « Nous rejetons avec mépris tous ces mythes savants qui disent que Moïse n'est qu'une figure légendaire sur laquelle le clergé et le peuple faisaient reposer leurs principales ordonnances sociales, morales et religieuses. Nous croyons que le point de vue le plus scientifique, que la conception la plus moderne et la plus rationnelle trouveront une entière satisfaction en adoptant l'histoire de la Bible littéralement et en reconnaissant l'existence de l'un des plus grands êtres humains. » Donc il parle de Moïse encore là. « Ces savants accompliront ainsi le progrès le plus sensible qui ait jamais été opéré dans l'histoire de l'humanité. Nous demeurons insensibles au discours du professeur Gradgrind et du docteur Dry as Dust. » Bon, ça, ce sont des noms un petit peu comiques, hein. Nous sommes parfaitement certains que ces choses arrivèrent telles qu'elles nous sont exposées dans les Saintes Écritures. Nous croyons qu'elles arrivèrent à des gens pas tellement différents de nous et que les impressions que ces peuples éprouvèrent nous sont fidèlement rapportées et qu'elles nous ont été transmises à travers les siècles avec beaucoup plus de précision que bien des reportages télégraphiques actuels. Selon les mots d'un ouvrage oublié de M. Gladstone, nous reposons avec assurance sur le rocher inébranlable des Saintes Écritures. Laissons les hommes de science et les savants compléter leurs connaissances, examiner et sonder par leurs recherches chaque détail des traces qui sont parvenues jusqu'à nous de cette époque lointaine. Ils ne pourront que mettre en valeur la grande simplicité et l'exactitude essentielle des vérités rapportées qui ont illuminé jusqu'à maintenant le pèlerinage de l'homme. Voilà, il insiste donc sur la fiabilité scientifique, historique, littéraire de la parole de Dieu de l'Écriture sainte. Et ces lignes-là, elles se sont vérifiées depuis, donc Winston Churchill, voilà, si vous avez entendu parler de lui, eh bien sachez l'opinion qu'il avait à ce sujet. Donc, Considérons encore que notre texte, auquel je reviens dans les Proverbes, que notre texte fait partie de cette grande introduction du livre des Proverbes qui est lui-même tellement précieux pour bien se conduire dans l'existence de manière à parvenir un jour au ciel, de manière à être gardé de la perdition éternelle et d'avoir cette merveilleuse certitude d'être sauvé pour l'éternité. Et la question qui se pose à nous est encore là, bien sûr. Avez-vous cette certitude du salut? Avez-vous cette assurance bénie d'être sauvé? Alors, il vous faut recevoir pour cela le message de notre texte, auquel nous venons donc, et nous voyons que deux grandes idées parcourent ce passage. D'une part, nous y sommes exhortés à traiter la parole de Dieu de la bonne façon, et d'autre part, nous pouvons considérer les remarquables promesses de Dieu qui sont les conséquences d'une bonne réception de cette parole et de ce message. Alors voyons ensemble, dans un premier point, les exhortations à traiter la parole de Dieu de la bonne façon. Comment traiter la parole de Dieu de la bonne façon ? Mais écoutez, ça implique déjà, pour commencer, un profond changement d'attitude de notre part. Parce qu'auparavant, il est vrai que nous étions ignorants de la parole de Dieu. Pour la plupart d'entre nous. Nous étions négligents même de son message. Nous avions probablement aussi toutes sortes d'idées préconçues au sujet de l'Écriture sainte. Nous avons peut-être eu un peu de curiosité, alors nous avons ouvert à l'occasion la couverture d'une Bible, mais sous toutes sortes de prétextes, nous l'avons rapidement refermée, en tout cas c'était mon expérience, et nous avons laissé la poussière s'amasser sur elle pendant bien des années. Souvent, nous avons en fait manqué de sérieux, nous avons manqué de persévérance, nous avons manqué d'amour pour la vérité, manqué de faim et de soif de ce qui est véritablement bon et juste, et nous avons manqué aussi de compréhension des choses de Dieu par conséquent. Et il a fallu de notre part un profond changement pour pouvoir être visité, pour pouvoir être éclairé et béni. Et voici encore un témoignage d'un homme donc, qui a vécu... il fait dater de cela, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà ce qu'il a écrit. Il y a longtemps déjà que je l'achetais à Prague. Elle voyagea avec moi à travers les frontières et partagea ma situation de réfugié. Sa première magnifique reliure bleue s'abîma peu à peu complètement et je décidai de lui en mettre une nouvelle. Mais avec quoi ? Je ne possédais que la doublure noire de mon manteau qui puisse convenir. C'est pourquoi ce livre a une couverture si étrange. Comment se fait-il que je le traîne partout avec moi ? Je ne le comprends pas moi-même. Ce livre m'est continuellement une entrave, et pourtant je n'ai pas le courage de m'en séparer. Il me rappelle la maison. En vérité, pourquoi l'ai-je acheté, cette Bible tchèque, moi qui ne suis pas protestant ? Avec ma Bible, je dus aller jusqu'en Italie, où je fus conduit dans une prison pour prisonniers de guerre. La prison se trouvait être le cloître de Saint-Pierre à Cardena. Je me souviens encore avec horreur, du long couloir. C'était en réalité deux corridors qui servaient de chambre à coucher de living room. Il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de petites bêtes qui couraient sur les couvertures de lit et nous avions faim. C'était à peu près le moment de Noël et je ne sais plus comment j'obtins une boîte de viande. Peut-être un ami me l'aurait-il envoyée. Mais à quoi sert une boîte si vous n'avez rien pour l'ouvrir ? Je la mis sur mon rayon à côté du livre et considérais un moment cet assemblage d'objets dissemblables. Pour les deux choses, il me manquait une clé. La Bible n'avait aucune utilité pour moi, car elle ne m'intéressait pas. La boîte non plus ne m'était pas utile, bien que son contenu m'intéresse grandement. Le jour suivant, on nous permit de sortir dans la cour. Je cherchais des yeux quelque chose qui puisse ouvrir la boîte de viande. De pauvres gens affamés fouillaient un tas d'ordures en quête de morceaux à moitié pourris pour les mettre à la bouche ou dans leur poche. Ils me regardèrent haineusement, croyant que j'allais leur soustraire quelque chose de la provision dégoûtante. J'eus de la chance. Brusquement, je trouvai une clé. Je ne décrirai pas avec quelle fièvre j'ouvris ma boîte et comment je dévorais son contenu. Tandis que je mangeais, je regardais le livre qui restait seul sur le rayon. Une pensée me traversa subitement l'esprit. N'aurais-tu pas besoin d'une clé aussi pour ce livre ? Mais cette clé ne pouvait pas se trouver dans le tas d'ordures. Je pris le livre et en tournai négligemment les pages. Je lisais un passage ici, un passage là, mais tout cela ne formait que confusion dans ma tête. Enfin, j'arrivai à l'évangile selon Jean et lus attentivement les premiers versets. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, mes yeux s'ouvrirent et la lumière se fit dans mon esprit. Pour finir, j'avais une clé qui immédiatement me permit de comprendre le contenu de ce livre. Depuis ce jour-là, elle est pour moi la provision des vérités divines, une source de force et la nourriture de mon âme, sans laquelle je deviendrais faible et périrais. Ce jour-là, je trouvais deux clés, l'une qui ouvrit pour moi la boîte de viande et l'autre qui me fit connaître Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Un témoignage, voilà. Et puis, si j'en reviens donc à mon texte de départ, j'aperçois que le premier aspect de cette bonne attitude qui nous sera si bénéfique, ça consiste à retenir les paroles de Dieu avec notre cœur. Retenir les paroles de Dieu avec notre cœur. À l'école, on apprend ses leçons, on le fait avec sa tête, dans des buts précis, avoir de bonnes notes, réussir une année scolaire, construire une carrière, un avenir. Mais pour être vraiment bénéfique, la parole de Dieu doit être retenue avec plus que notre tête, mais aussi avec notre cœur. Et voici le témoignage de ce colporteur biblique qui avait toute une série de Bibles et de livres chrétiens et qui s'est retrouvé dans la forêt sicilienne avec un revolver braqué sur lui et l'ordre d'allumer un feu et de brûler tous ses livres. Et après avoir allumé le feu, il demanda de pouvoir lire un court passage de chaque volume avant de le détruire. Et dans l'un, il lut le psaume 23, et dans un autre, le sermon sur la montagne, et dans un autre, le merveilleux chapitre sur l'amour, et ainsi de suite. Et après la lecture de chacun de ces extraits, le brigand s'écriait « Celui-ci est à mon livre, ne le brûle pas, donne-le-moi !» Et pour finir, aucun livre ne fut brûlé. Et donc, l'un après l'autre, ils passèrent entre les mains du brigand qui s'éloigna dans l'obscurité avec tout son chargement. Et quelques années plus tard, cet homme reparut, mais transformé en pasteur consacré. Vous voyez que ne vous fiez pas aux apparences des pasteurs. Voilà, donc, et en racontant son histoire au colporteur, il a ajouté « C'est la lecture de vos livres qui a produit cette transformation ». Et vous savez, la moisson de la Bible, ça consiste justement en une moisson de vie renouvelée dans le monde entier. Et ça, c'est une grande réalité. Et c'est quand le message de la parole de Dieu produit un bouleversement de caractère, un bouleversement de vie pour que le cœur soit touché, c'est là qu'on peut vraiment dire que cette parole de Dieu a été bien reçue. Amen. Alors, le deuxième aspect d'une bonne attitude, vous le trouvez encore au verset 4, c'est l'observance de sa parole et de ses préceptes. Alors là, quand il est question d'observer, bien sûr, il est facile de dissiper le malentendu. Hein. Il ne s'agit pas juste d'observer, de voir, de regarder immobile, même avec attention, et de ne rien faire. Et c'est vrai que dans un premier temps, il est nécessaire d'avoir une telle observation attentive du commandement de Dieu, du précepte, pour savoir exactement de quoi il est question et ce qui est demandé. Mais ensuite, il faut que cette observation devienne active, devienne donc à ce moment-là une observance qui nous fera nous mettre à l'œuvre et obéir pratiquement et avec confiance au commandement de la parole de Dieu au fur et à mesure que nous la comprendrons. Et c'est là que nous allons commencer à faire des expériences avec Dieu. Parce que Dieu et celui qui agit pour ceux qui lui obéissent avec confiance. Et il leur fait faire des expériences de bénédiction. Et puis, la suite de notre texte, un peu plus loin, dans la deuxième partie du verset 5, il est marqué « N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. » Et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas s'en détourner, il faut prendre soin de cela. Pourquoi ? Eh bien justement parce qu'il s'agit des paroles de la bouche de Dieu. Ce ne sont pas simplement les paroles d'un journaliste ou d'un historien ou d'un écrivain ou même de plusieurs écrivains, même géniaux. Il s'agit bel et bien des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, de l'expression exacte de sa volonté pour tous les hommes et pour chaque homme, pour vous, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'il est marqué encore que tant que la terre et les cieux subsisteront, il ne passera pas de la loi divine un seul iota ni un seul trait de lettre. Hein ? Ou encore, il est marqué que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole, elle, ne passera pas. et que tous ceux qui enlèveraient à cette parole, il leur serait aussi enlevé leur part de l'arbre de vie. Donc ça veut dire qu'il faut retenir, et retenir dès le début. Et le début c'est quoi ? Le début c'est quoi ? Le début ça correspond effectivement à notre besoin fondamental. Quel est notre besoin fondamental ? Bientôt vient la période de Noël, et sur une carte de Noël, j'ai trouvé le petit texte suivant. « Si la connaissance était notre plus grand besoin, Dieu nous aurait envoyé un génie universel. Si la technologie était notre plus grand besoin, Dieu nous aurait envoyé un scientifique particulièrement calé en cela. Si l'argent était notre plus grand besoin, Dieu nous aurait envoyé un économe. » Si le divertissement était notre plus grand besoin, Dieu nous aurait envoyé un maître dans ce domaine. Mais voilà, comme le pardon est notre plus grand besoin, il nous a envoyé un sauveur. Comme le pardon est notre plus grand besoin, il nous a envoyé un sauveur. Et là encore, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est bel et bien celle-là. Est-ce que tu as reconnu ton besoin d'un sauveur ? Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur ? Est-ce que c'est vraiment en tant que sauveur que tu veux recevoir Jésus-Christ et garder précieusement sa parole dans ton cœur pour ne pas l'oublier ? Alors oui, alors tu l'as reçue de la bonne façon parce qu'alors elle peut sauver ton âme. Amen. Et puis le verset 6 nous rappelle que pour bien aimer la parole de Dieu, il nous faut aimer la parole de Dieu, excusez-moi. Pour bien la recevoir, il faut l'aimer. On peut la lire, on peut la méditer, on peut écouter, étudier avec curiosité, avec intérêt, avec crainte, avec le sentiment de la nécessité qu'il faut le faire pour être sauvé. On peut même le faire avec zèle, on peut même le faire avec ardeur. On peut se contraindre à des habitudes d'attachement à la parole de Dieu, mais il faut plus que cela. Parce que vous savez, dans le passé, il y a eu du temps de Jésus, des scribes et des pharisiens qui passaient beaucoup de temps à cela. Vous avez eu ce qu'on a appelé les massorètes, qui ont été des moyens de transmission de l'écriture jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu des moines copistes au Moyen-Âge et après. Vous avez eu des traducteurs éminents. Vous avez eu des théologiens extrêmement savants qui ont étudié l'écriture sainte et l'ont fait assidûment au cours des siècles et qui y ont même consacré leur vie, qui ont vécu en ne faisant que cela. Mais ce n'est pas là un gage de salut et de bénédiction pour eux tous, parce qu'il ne suffit pas d'aimer étudier la parole de Dieu. Bien sûr, c'est une très bonne chose, mais à la base et tout au long, eh bien, c'est l'auteur qu'il nous faut aimer. C'est Dieu qu'il nous faut aimer. Et c'est lui qui va, et c'est de cette manière qu'on va vraiment aimer son message et qu'on va l'aimer de la bonne façon. Voici l'histoire d'une jeune fille qui avait essayé de lire un livre ennuyeux au possible. Hein. Donc tellement ennuyeux ce bouquin-là qu'elle l'a abandonné en route, abandonné la lecture. Puis voilà qu'un jour, elle tombe amoureuse d'un jeune homme et puis c'est un sentiment qui est partagé. Et voilà que ce jeune homme est un écrivain. Et au cours de leurs entretiens, il s'avère que c'est lui qui a écrit le fameux livre qui l'avait si peu touché. Alors vous imaginez bien sûr avec quel renouveau d'intérêt elle se relance dans la lecture du livre. Donc, parce qu'elle l'aime, elle va beaucoup mieux comprendre. Et ce qu'elle ne comprend pas, bien sûr, elle peut le demander à l'auteur. Hein, et comme ce livre va être pour elle du plus haut intérêt. La différence, c'est quoi ? C'est l'amour, uniquement l'amour. Ah, amour, que ferions-nous si tu n'étais pas là ? Voilà, donc, eh bien, si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi sa parole. Hein, et ta bénédiction sera complète. Voilà. Et puis, il nous faut acquérir également cette sagesse et cette parole de Dieu avec tout ce qu'on possède. Dans le chapitre 4, verset 7, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alors ça nécessite évidemment un engagement de notre part. Alors, quand on parle d'engagement, aujourd'hui spécialement, où les gens aiment beaucoup toucher à toutes sortes de choses, mais n'approfondir pas forcément grand-chose, eh bien, quand on parle d'engagement, certains deviennent craintifs, et pourtant, c'est bien ce que Jésus a dit. Hein. Il a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Hein. Il a dit encore, rappelez-vous, va, Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Hein. Que parlant des disciples, nous lisons qu'il est, écrit, laissant tout, ils le suivirent. Que faut-il pour être perdu ? Que faut-il faire, pardon, pour être perdu ? Réponse, rien. Hein ? Il y avait une grande convention chrétienne qui se tenait à Morges, en Suisse, et là, vous aviez à l'entrée donc un immense panneau, à l'entrée du terrain, et vous pouviez voir sur ce panneau cette inscription-là, que faut-il faire pour être perdu ? Rien. Et on y voyait simplement un bateau qui était emporté par le cours rapide d'une rivière. Et dans ce frêle bateau se trouvait un jeune homme qui était mollement étendu, qui avait les jambes pendantes, un petit peu dans l'eau comme ça, et qui jouait du banjo. Et puis sur le bord, vous aviez un écriteau, sur la berge, un écriteau planté qui disait « Attention, cataracte à 1 km ». Et non loin de là, il y avait un homme qui essayait d'attirer son attention, l'attention du musicien, par de grands signes, mais sans résultat. Alors, vous savez, eh bien, ça nous laisse comprendre quoi ? Ça nous laisse comprendre que pour être perdu, vous savez, il n'y a qu'à se laisser vivre. En négligeant les déclarations de la parole de Dieu et en méprisant ses promesses. Vous savez, vous avez tant de choses, qui retiennent bien des hommes de s'engager pour être sauvés. Mais c'est seulement lorsqu'il se décide à s'engager entièrement dans la voie de Christ, dans la voie de disciples de Christ, qu'on peut dire qu'ils ont bel et bien reçu la parole de Dieu, qu'ils l'ont reçue de la bonne manière et qu'ils sont réellement sauvés. Amen. Et puis le chapitre 4, verset 8, nous dit encore, au sujet de cette sagesse et de cette parole de Dieu, « Exalte-la et elle t'élèvera ». Qu'est-ce que ça veut dire « exalter quelqu'un » ? Exalter quelqu'un, ça veut dire l'élever, vanter ses qualités, ses mérites, proclamer sa supériorité. Hein, donc voilà, cela. Et ainsi, sommes-nous invités à faire en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous ne devons pas craindre d'en reconnaître l'excellence. Et c'est vrai que lorsque nous la méditerons, en demandant au Seigneur de nous aider à comprendre, eh bien, nous allons évidemment arriver à la placer bien au-dessus de tout autre message, tout autre texte humain, quel qu'il soit, et nous aurons à cœur aussi de proclamer cela autour de nous. Vous avez entendu parler de Walter Scott, probablement, hein, qui est donc un célèbre écrivain anglais, et qui a laissé derrière lui une œuvre importante, écrit de nombreux livres. Et en tout outre, bien sûr, cet homme était extrêmement cultivé. Il avait un jugement en matière littéraire qui avait beaucoup de sûreté, qui avait un grand poids. Et lorsqu'il est arrivé au terme de sa vie, il a demandé un jour à son gendre de lui lire quelque chose. Et ce gendre lui a demandé « Mais dans quel livre ?» Et il a répondu, le vieillard a répondu « Il n'y a qu'un seul livre. » Cet auteur prolifique, célèbre, a dit « Il n'y a qu'un seul livre ». Et d'ailleurs, le mot « Bible », c'est ça que ça veut dire « livre hein, », c'est le livre. Et le chapitre 14 de l'évangile de Jean donc a apporté aux mourants la paix et l'assurance qu'ils recherchaient. Et ça, ça doit nous parler, je crois aussi, hein, donc parce que cette parole est là pour cela également. Et puis, il nous faut garder cette parole aussi, et c'est dans notre dernier verset, le verset de notre lecture, au verset 13, la garder comme quelque chose de vital. Il est dit là, donc, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Elle est ta vie. Nous sommes là devant une question, quelque part, de vie ou de mort. Hein. On a le choix. Soit on reçoit la parole de Dieu et on vit, on n'existe pas seulement sur cette terre, mais on reçoit la vie véritable. Et à ce moment-là, ben, par exemple, on peut résister au mal, déjà au mal qui est en nous, pour commencer, prendre la victoire avec le secours de Dieu, ou alors on ne la garde pas, on la rejette, on est libre de le faire, hein, chacune et chacun. Mais à ce moment-là aussi, on est perdu. On est perdu pourquoi ? À cause du péché, c'est le grand problème qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas que l'écologie n'est pas respectée comme il le faudrait. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème, c'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. C'est ça le problème. S'il n'y a pas le péché dans le problème de l'homme, dans le cœur de l'homme, pardon, il n'y aurait pas de problème d'écologie sur cette terre. C'est l'écologie de l'âme, la grande nécessité. Hein. Vous savez, quand on se coupe, vous avez des agents pathogènes qui pénètrent dans la plaie, et toutes les 20 minutes, chaque bactérie se divise en deux. Hein. Donc, ça veut dire qu'au bout d'une heure, il y en a 8. Après 5 heures, il y en a 30 000. Après 11 heures, le nombre d'habitants de la Terre est dépassé. Théoriquement, après 25 heures, un pays comme la République fédérale d'Allemagne serait couvert d'un tapis de bactéries. Et après 29 heures, ce serait la Terre entière. Mais, Dieu merci, notre corps se défend de lui-même. Et de plus, il existe des médicaments aussi pour aider. Et ça, c'est une image saisissante du péché qui infecte tout, voyez-vous. Et celui qui réalise cela, il va s'attacher à la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va être le moyen, notre moyen, unique et puissant, de remporter la victoire sur le mal et le péché dans notre cœur, dans notre vie déjà, et ensuite, pour que nous puissions être des moyens de bénédiction aussi autour de nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut recevoir Jésus, la parole vivante, dans notre cœur. Amen. Amen. Et puis nous en arrivons à notre deuxième point, qui sera en même temps aussi notre conclusion. Ce sont les promesses extraordinaires contenues dans notre texte qui sont la conséquence d'une bonne réception de la parole de Dieu. Déjà, il est marqué qu'on va avoir la vraie vie, la vie véritable. C'est dans le verset de départ de notre lecture et dans le verset de conclusion. Donc, le verset de départ, c'est le verset 4. « Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. » Tu vivras. Et au verset 13, nous venons de le dire, « Garde-la, car elle est ta vie. » Donc, encadrant ainsi, en quelque sorte, les autres passages. Et de quelle vie s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une vie soutenue et renouvelée par Dieu. Il s'agit d'une vie de pardon et de grâce. Il s'agit d'une vie véritablement utile et précieuse, une vie riche et abondante. Il s'agit d'une vie de communion avec Dieu et avec les fidèles, une vie sous la garde et la protection de Dieu. Il s'agit d'une vie d'exaucement, de réponse à nos prières et de miracles. Il s'agit d'une vie dans laquelle il y a des combats, bien sûr, parce que toute l'existence c'est comme cela, mais c'est une vie dans laquelle on est rendu victorieux. Il s'agit d'une vie de difficultés, certainement, mais de merveilleuses solutions également. Et il s'agit surtout d'une vie qui s'achève dans une glorieuse apothéose. Donc, c'est de cette vie-là que l'Écriture nous parle. Ensuite, une deuxième chose, une deuxième conséquence, il nous a expliqué au verset 6 qu'on va être gardé et qu'on va être protégé. Ne l'abandonne pas, elle te garde-la. Aime-la et elle te protégera. C'est vrai. L'Écriture nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et avec le Seigneur, on est protégé. Dans toutes les situations, dans tous nos besoins. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être téméraire et de faire n'importe quoi. Mais si on se confie dans le Seigneur, eh bien on sera gardé et protégé. On sera aussi élevé, nous est-il dit. « Exalte-la, elle t'élèvera », verset 8. Celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur est celui qui va nous faire marcher sur nos lieux élevés. Ça veut dire que quand on est dépressif, ça veut dire quand on est découragé, quand on est abattu, mais le Seigneur va nous fortifier et va nous relever, voyez-vous. Il va nous élever, c'est son désir. Et puis, bien sûr, il est écrit encore, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. » Sans parler de l'élévation céleste à laquelle nous nous attendons lorsque le Seigneur nous prendra avec lui. Et puis une autre chose encore, au verset 8, il est dit encore, « Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. » Dieu va mettre sa gloire sur nous. C'est là également son désir. Il va manifester sa gloire en nous et par nous, et d'autres aussi autour de nous vont pouvoir en bénéficier, vont pouvoir également être soutenus et secourus. Dieu va se glorifier dans nos besoins, dans nos manques. Il va agir, il va intervenir. Et puis, bien sûr, tout ceci en anticipation du corps glorifié qu'il donnera quand il viendra chercher les siens. Et puis, on sera aussi couronné de grâce, est-il dit au verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Vous savez, nous vivons par la grâce de Dieu. c'est quelque chose de précieux. C'est parce que nous comptons sur la grâce de Dieu que nous savons que nous sommes sauvés. C'est parce que nous faisons appel à la grâce de Dieu que nous savons que le pardon nous est accordé. Nous vivons continuellement par sa grâce et de sa grâce. Et il est important, il est bon que nous puissions réaliser l'abondance de la grâce qu'il y a pour nous en Jésus-Christ. Et ça encore, c'est par la parole de Dieu qu'on saisit cela et puis qu'on va le mettre en œuvre jour après jour dans notre vie. Et puis le verset 10 encore nous explique « Écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront ». Les années de ta vie se multiplieront. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, vous savez. Il y a des gens qui s'imaginent que tout est fait d'avance, que Dieu a tout tracé d'avance, et puis qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, vous savez. Dieu nous a laissés libres, hein, et il y a tout, Dieu n'a pas écrit d'avance tout ce qui nous concernait. Et là, il nous a expliqué que pour que les années de notre vie sur terre, puissent se multiplier, eh bien, ça dépend de notre attitude aussi vis-à-vis de la parole de Dieu. Hein. Vous avez d'autres facteurs qui interviennent. Lorsqu'il nous est dit qu'il nous faut honorer notre père et notre mère, hein, afin que nous vivions heureux et longtemps, vous voyez, ça dépend aussi de nous. Il y a des facteurs qui sont là. Mais en tout cas, voilà encore une belle et grande promesse, celle de cette bénédiction jusqu'au bout et plus encore à la fin de notre existence. Enfin, une promesse de secours pour marcher, dirais-je, pour courir pour Dieu. Parce que, verset 12, « Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. » Et oui, c'est vrai. C'est vrai que dans l'existence, ben, ma foi, on se trouve devant des gênes, hein, devant des obstacles, devant des choses qui voudraient nous empêcher d'avancer. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur, eh bien, ceux-là vont être soutenus. Ils vont pouvoir passer ces difficultés. Ils vont recevoir des forces nouvelles, spécialement s'il leur faut courir éventuellement. Et c'est pour ça que l'apôtre pourrait dire « je cours », mais non pas comme battant l'air, mais oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Hein, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors voilà, eh bien cette parole de Dieu est là et nous invite chacune et chacun à la recevoir, à la saisir avec un cœur bien disposé. Et elle veut accomplir une grande œuvre de salut dans nos vies. Et spécialement, c'est Jésus-Christ, la parole vivante, qui confirme, qui accompagne la parole écrite. Eh bien, c'est lui qui veut accomplir cette œuvre de manière à nous attirer puissamment à lui. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons parce que tu es toujours le même. Et parce qu'encore aujourd'hui, parce qu'encore ce soir, tu es celui qui soutient ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et ceux qui se confient en cette parole, ceux-là seront pleinement au bénéfice de tes promesses. Merci Seigneur. Et merci parce que tous ceux qui se décident, tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui s'attachent au précieux message qui est contenu dans l'Écriture sainte, eh bien ceux-là n'auront qu'à s'en réjouir. Ceux-là n'auront qu'à s'en féliciter. Ceux-là n'auront qu'à se dire qu'ils ont pris la bonne décision, qu'ils ont fait le bon choix le jour où consciemment, volontairement, ils ont décidé de s'y intéresser et de s'y attacher. Merci Seigneur. Et béni sois-tu parce que plusieurs parmi nous ont déjà fait ce choix. Mais Seigneur, il en est encore qui se trouvent devant cette opportunité. Et merci parce que tu veux leur donner de la saisir.